Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne, Sophie Peters.
Pour ce moment d'échange que tous vous attendez, car vous savez combien il vous nourrit. Nous avons besoin de nous inspirer des témoignages des uns et des autres pour choisir notre destinée. Et je participe demain à un podcast atelier sur le changement de vie, l'Envol, podcast que vous découvrirez bientôt et auquel vous pouvez d'ores et déjà vous abonner sur toute plateforme d'écoute. Il y a déjà plusieurs épisodes. Pourquoi la reconversion ? Bah, plus que jamais, il semblerait que nous ayons toutes et tous besoin de mener une existence qui a du sens. Nietzsche disait « Donne à l'homme un pourquoi, il peut s'accommoder de tous les comment ». N'oublions pas que nous sommes toutes et tous en constante évolution et au fond, nous désirons plus que tout nous transformer. Le meilleur objectif, c'est de chercher à se réaliser soi-même, partout, dans différentes dimensions. Et le travail, vos projets, constituent cette dimension essentielle. Car l'essentiel, c'est d'avoir le sentiment de progresser. Ce qui mobilise notre intelligence et notre créativité, c'est notre capacité à nous adapter et à construire. Être à sa place, c'est avoir le sentiment que chaque jour nous a appris et nourri. On en parle ce soir, si vous voulez, de vos transformations qui sont souvent d'ailleurs intérieures avant d'être extérieures. Florian et Thomas sont là pour recevoir vos appels au 3921. Et c'est Fifi qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot « nuit » et dialoguer avec nous par mail à l'adresse libre-antenne toutattaché@europe1.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters. J'attends vos appels au 3921.
22h30, 1h, la libre-antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Anna.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Merci. Je vous remercie d'avoir sélectionné mon message.
Oui.
Je ne sais pas trop.
Oui, oui, je vais vous aider parce que voilà, Florian m'a dit que en fait vous êtes en colère depuis fin mai, dites-vous, et vous n'arrivez pas à redescendre. Et oui. C'est au sujet d'une relation amicale.
Oui, tout à fait. Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ami ?
J'ai reçu un de mes meilleurs amis chez moi. Mmh. Il y a, oui, à peu près 2 semaines. Et en fait, c'était très déstabilisé par son attitude et par la mienne, du coup. Mmh. Et oui, son attitude m'a mis en colère puisque je l'ai trouvé très arrogant. J'ai reçu ça un peu comme de la violence. Et depuis, je suis énervée, en fait. Et en fait, je ne décolère pas.
Oui. Et en fait, qu'est-ce qui s'est dit ? Qu'est-ce que vous avez vécu ?
Ce que j'ai vécu... Alors déjà, il faudrait peut-être que je resitue le contexte. C'est un ami que je connais depuis plus de 10 ans. Mais comme nous n'habitons pas dans la même ville, on se voit rarement.
D'accord.
On échange surtout beaucoup par téléphone. Et là, bon, je l'avais vu dernièrement en novembre. Et avant ça, ça remontait à 2 ans auparavant. Mm-hmm. Donc on se voit pas souvent.
Mm-hmm.
Et les derniers échanges qu'on a eus au téléphone, c'était de très bons échanges où, bon, comme d'habitude, on rigole, on parle un petit peu de nos projets respectifs. Donc c'était de très bons échanges. Donc quand il a été convenu qu'il vienne passer quelques jours, j'étais ravie de le voir. Puis il est arrivé, et en fait, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas reconnu, mais presque. Voilà.
Tout de suite, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de changé, dès le début.
Oui.
Oui.
Et en même temps, dans la continuité de ce qu'il est. C'est-à-dire que je ne me suis pas non plus retrouvée face à un inconnu, mais je me suis retrouvée face à une personne avec laquelle je n'ai pas de correspondance de valeur, en fait. Or, ce qui nous rapprochait, c'était ça, c'était des valeurs communes, on va dire. Donc, c'est ça qui m'a un peu déstabilisée. Je l'ai trouvé très, très arrogant. En fait, en ce moment, il est en train de mettre en place un nouveau projet dans sa vie qui l'enthousiaste beaucoup, qui est normal.
Ouais. Donc, lui, il est en pleine transformation.
Voilà. Sauf qu'il n'y a rien qui a été fait. Il est juste en train de poser les bases.
Oui. Bon,
il n'y a pas de changement.
Oui,
voilà.
Oui, mais il faut ce temps-là. Les transformations, elles sont d'abord, comme je disais au début, intérieures avant de se voir, avant d'être extérieures.
Exactement.
D'accord.
Sauf que, quand on l'entend, c'est comme s'il était déjà arrivé à la fin de ce projet.
Mais oui, parce qu'il se projette. Un projet dans lequel on se projette. Oui, il a besoin.
C'est ça.
Parce qu'il a besoin d'y croire à fond. Ouais.
Oui. Sauf qu'il y a une différence entre, effectivement, y croire et être enthousiaste. Et écraser les autres avec l'arrogance parce qu'en fait j'étais très choquée par la façon dont il a parlé en fait dans la ville dans laquelle j'habite. Il a aussi un de ses amis à lui que moi je ne connaissais pas avant. Il m'en avait déjà parlé mais je ne l'avais jamais vu, et c'est un hasard qui fait qu'on vit aujourd'hui dans la même ville, et il en a profité pour voir également cet ami. Donc on a eu l'occasion de sortir, d'aller boire un verre, de faire un resto. Et j'ai été extrêmement choquée de la façon dont il a parlé, en fait, en lui parlant de haut, en le prenant de haut, parce que lui, il a réussi. Sauf qu'en fait, il n'a pas commencé. Et je me suis surprise, en fait, et c'est peut-être ça qui m'a déstabilisée. Moi, qui suis en général très... j'encourage beaucoup les autres, et je fais toujours... quand ils ont des projets pour être supportrice, on va dire, pour leur dire mais tu vas y arriver, je suis aussi là à l'écoute quand ça va pas. Et là, en fait, intérieurement, j'en suis arrivée à me dire mais j'espère qu'il va se prendre un mur.
Bah parce que vous pouviez plus être à l'écoute s'il allait bien, il avait plus besoin de vous au même endroit.
Disons qu'en fait, c'est pas tant dans le besoin, c'est plus dans. En fait, je me dis. Il a pas commencé, il a encore rien fait, et il se permet d'avoir une façon de parler aux autres qui est très désagréable, comme s'il avait tout d'un coup compris et réussi, et comment dire, j'en suis arrivée à me dire j'en ai fini par souhaiter du mal, en fait. C'est ça qui m'a déstabilisée. Alors que c'est l'un de mes meilleurs amis, et que la chose que j'ai envie, c'est qu'il réussisse. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il peut pas dire des choses comme ça. Il peut pas.
Mais c'est pas lui, Anna. Parce que, en fait, quand vous en parlez, vous dites, il est ceci, il est cela. Mais ce qui compte, c'est ce que ça vous fait à vous pour arriver
Exactement.
À comprendre. Et vous, vous dites, j'en étais, alors, et merci de le dire, ça nous arrive complètement, hein, ces zones d'ombre qu'on a. J'en suis arrivée à avoir envie que ça ne marche pas, son projet. Et vous, vous l'avez vécu comme une arrogance, comme un côté hautain. Mais tout ça parle de vous, plus que de lui. Lui, il était dans son truc, enthousiaste, peut-être qu'il ne se rend pas compte, il croit qu'il est déjà en haut de l'échelle, mais... Ça pourrait ne rien faire à son ami. Ça aurait pu ne rien vous faire, voire vous amuser, voire vous attendrir. Enfin, y a plein de solutions possibles de réaction. Ce qui compte, c'est la façon dont vous y réagissez, parce que qu'est-ce que ça vous raconte sur vous que vous ne voyez pas ? Parce que là, du coup, ça devient intéressant pour vous. Vous pouvez apprendre plein de choses sur vous, là, à cette occasion.
Oui. Moi, ce que j'en ai déduit, parce que je me suis posé effectivement la question, en me demandant pourquoi est-ce que j'étais aussi énervée, en fait, la première des choses, c'est que j'en ai déduit... Enfin, comment vous dire c'est comme si je le rencontrais aujourd'hui, parce qu'on se connaît depuis plus de 10 ans, mais si je le rencontrais aujourd'hui, ben au vu de ce que j'ai vu, c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais eu envie de devenir amie. Voilà. Et ça m'a déstabilisée. c'est comment dire.
Oui, mais ça veut dire, donc moi j'aime bien être amie avec des gens, vous m'arrêtez hein, si c'est pas ça. Hein. Oui. Moi ce que je comprends avec les premiers éléments, hein, c'est moi j'aime bien être amie avec des personnes dont je sens que je peux leur apporter quelque chose ou les aider. Donc forcément, c'est plutôt des gens qui vont être en souci ou avoir des difficultés, peu de confiance en eux, parce que peut-être ça me rassure et en fait j'ai l'impression d'être utile. Et j'aime rentrer en contact avec eux parce que là, on connecte dans cette peut-être faible ou manque d'estime de soi ou de confiance et je me sens à ma place avec des gens comme ça. Est-ce que ça, c'est juste ?
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout parce qu'en fait, c'est pas du tout le profil de mes amis. Non, mes amis, au contraire, je vois exactement de quoi vous voulez parler.
Oui, d'accord.
Et c'est pas ça. D'accord. Et c'est pas ça du tout puisqu'on est... On est dans des relations qui sont plutôt positives. Il n'y a pas trop ce côté infirmière, voilà.
D'accord, oui. Je ne parlais pas infirmière, mais vous parliez de valeurs et autour de la réussite. Parce qu'il y a Jocelyn qui pose la question, et c'est vraiment à celle-là que je pensais aussi. Quand il dit, est-ce que c'est de l'arrogance ou juste un manque de confiance en lui, ou il cherchait à se convaincre peut-être ? Et souvent, quand on n'est pas très... Vous dites que vous avez l'air de le connaître en version, justement, où il n'a pas trop confiance en lui. Est-ce que son projet, en fait, lui donne des ailes ? Et comme dit Jocelyn, il cherche du coup à se convaincre ou à se rassurer lui-même. Et donc, il se raconte une histoire dont vous êtes le témoin et dont il a besoin que vous adhériez pour être bien sûr que la belle histoire qu'il raconte, il va vraiment réussir à la fabriquer.
Alors, pas vraiment.
D'accord.
Alors, je vais essayer de mieux m'exprimer parce que
c'est ce qu'on comprend. Et comme je vois que je ne suis pas la seule à le comprendre, alors aussi, voilà. Ouais.
Alors, mon ami, avant, n'était pas, une âme triste. Il a toujours été très persévérant. C'est quelqu'un de très ambitieux et qui a vécu plein de réussites.
D'accord.
Et le rapport qu'on a tous les deux, c'est plus un rapport de conseil, confidence, par exemple sur le plan amoureux ou affectif. S'il rencontre des difficultés avec ses petites amies, il m'en parle. Et puis aussi, quand il passe des bons moments avec ses petites amies, il m'en parle aussi.
Mm-hmm.
Et on parle aussi beaucoup de la vie en général. Mais on n'a pas un rapport dans lequel lui n'a pas confiance en lui. Enfin, non, c'est quelqu'un qui
D'accord.
a toujours eu confiance en lui.
D'accord.
Et moi, je n'ai pas non plus spécialement un problème de confiance en moi.
D'accord.
Comme tout le monde, il y a des moments où je doute.
D'accord.
Sûr,
donc vous étiez en mode conseil-confident. Mais là, vous ne l'étiez plus dans ce rôle-là. Pour le coup
Si, toujours. Sauf
ce soir,
ça a changé.
Oui.
Tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis toujours dans ce rôle-là.
Ce soir-là, où il vous racontait ça, vous n'étiez plus dans ce rôle-là.
Si.
Puisqu'il vous racontait son succès.
Non, en fait, c'est pas qu'il raconte son succès, puisqu'en fait, il est en train de poser les bases de son
D'accord.
changement professionnel,
ouais.
qui n'a pas encore eu lieu.
Mmh.
Nos rôles n'ont pas changé l'un envers l'autre. Par contre, son attitude devient arrogante. Comment l'exprimer ? Il y a une différence entre dire « je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça » et dire « les autres sont des idiots parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait faire ci, ça, ça. Moi, je l'ai compris et c'est ce que je mets en œuvre pour ma vie. »
D'accord.
Vous voyez ?
Mmh.
Voilà, c'est plus ça.
Mmh.
Qu'en fait, nos rôles n'ont pas changé. Mmh. Quand il est venu, j'étais ravie de le voir, etc. Par contre, j'ai été choquée, j'ai été prise de court.
Mais vous
parce que tout
connaissez...
d'un coup, son discours...
Oui. Mais comment, du coup, vous qui le connaissez bien et qui connaissez ses confidences, est-ce que, justement, son discours, qui tout d'un coup, il a l'air d'avoir trouvé le Graal, et il est tout content de dire « moi, je l'ai trouvé, les autres sont des imbéciles parce qu'ils ne l'ont pas trouvé ».
Voilà,
et ça, c'est ça qui vous choque. Mais je rejoins quand même un peu le message de Jocelyn. C'est-à-dire que moi, j'entends quelqu'un qui... Quand on dit « moi, je suis génial, j'ai trouvé un truc, les autres sont vraiment des idiots, comment ils n'ont pas trouvé ça ?» C'est qu'on cherche à se rassurer. Sinon, on n'a pas besoin de se comparer.
Ah oui, c'est possible. C'est largement possible.
Ouais.
Mais à la limite, moi, je ne me suis pas focalisée là-dessus. Parce que ce sur quoi je me suis focalisée, c'était sur le fait que j'étais choquée. Mais moi, j'étais réellement choquée.
Ouais, et allez voir
quand
plus loin, qu'est-ce qui vous choque profondément. C'est que ce n'est pas la personne que vous... Voilà, c'est ça. Ce n'est pas,
pas
la personne que vous pensiez connaître.
Donc, j'en ai eu honte à un moment.
De lui.
Bon, j'en ai eu honte. J'ai eu honte de lui.
Et donc, honte de vous, honte de votre amitié, honte de la confiance que vous lui témoignez.
Ah, possible. Je ne me suis pas posé la question, mais largement possible. J'ai eu honte de lui parce qu'on a fait un repas au restaurant. il y avait son autre ami, il n'était pas seul, il avait aussi emmené des amis à lui, etc. Et le voir monopoliser la parole, mais c'est pas grave de monopoliser la parole, vous voyez.
Oui, c'est la façon. Ce qui est grave, non, c'est vous parlez de la façon. Oui.
Voilà, avec cette attitude que j'ai trouvée déplacée face à des gens qu'on ne connaît pas forcément, à dire moi, à ne pas laisser la place aux autres, à rire un petit peu de ce que les autres font, alors qui du manque de confiance en lui possible, et ça, je le remets
en fait,
question,
il est terrorisé, il a l'air terrorisé.
Possible. Mais moi, ça m'a terrorisé également, et du coup, je ne l'ai plus supporté. Il était là, ça faisait une journée, il était censé rester 3 jours, il est resté 3 jours, mais au bout d'une journée, je n'en pouvais absolument plus.
Il a continué à être comme ça pendant les 3 jours?
Oui.
Oui, d'accord.
Avec les autres, avec... on est resté aussi beaucoup à vue, mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça se témoigne par des attitudes. Évidemment, bon, là, on a vu d'autres personnes, mais quand on était tous les deux aussi, sur le quotidien, les actes du quotidien, c'est qu'il est axé performance et il se compare. Et le connaissant un peu, j'ai un peu compris, mais il y a des choses qui se dépêchaient de le faire, comment dire, qui se dépêchaient de faire avant que je les fasse pour être plus performant. C'est assez complexe à expliquer, mais en fait, il ne m'a pas laissé de place, vous voyez. Alors que j'étais chez moi et j'ai tout fait chez moi. Je me disais, j'en peux plus.
Voilà. Bah, vous n'existiez pas, vous étiez furieuse parce qu'il n'a pas demandé de vos nouvelles, parce qu'il ne s'intéressait plus à vous, parce que c'est humain. C'est-à-dire qu'il était complètement encombré de lui-même, très encombré.
Alors ça, les nouvelles et autres, bien sûr que si, bien sûr qu'il m'a demandé, et ça, à la limite, c'est notre nouvel échange, on a échangé. Mais c'est juste que pour tout, en fait, il est dans une concurrence avec les autres.
Vous parlez beaucoup, beaucoup de lui pour dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, comme si vous cherchiez à nous convaincre, voilà, de vraiment, c'est pas possible. Donc, à vous convaincre aussi de cette aversion que vous avez sentie, de dire j'ai tout fait, mais sans regarder pourquoi ça vous fait tout ça à vous. C'est-à-dire que ce qui compte là dans l'histoire, c'est pas ce qu'il est, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est, ce qu'il fait qui vous fait tout ça à vous. Parce que vous pourriez, ce que je vous disais tout à l'heure, vous auriez pu avoir une réaction tout autre, d'humour, de distance, enfin peu importe, on peut tout imaginer comme réaction. Donc, ce qui est intéressant là pour vous, c'est de comprendre qu'est-ce que ça a touché chez vous, qui vous met en colère, qui vous fait sentir de l'arrogance, qui vous fait sentir quand même méprisé un petit peu, parce que vous parlez d'arrogance et que vous n'existez pas, que vous étouffez. Donc si vous étouffez, c'est que vous manquez de place. À quoi ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça vous rappelle?
Moi, ce que ça m'a fait, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'étais dit, si j'avais rencontré aujourd'hui, ce serait pas mon ami.
Mais voilà. Ça, c'est un constat, mais c'est pas ce que ça vous fait.
Voilà.
Mais c'est
pas ce que ça vous fait. Et pourquoi je dis que ça me fait ça? Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui, par rapport à mon mode de vie, a très peu d'amis. Je sélectionne beaucoup les personnes que je fréquente, et ce sont des personnes à qui je fais entièrement confiance. Et en fait, ayant très peu d'amis, mais vraiment peu, et il en fait partie, mais du coup.
Donc vous êtes très exigeante en amitié. Votre ami correspondre à certains critères. Des valeurs. Mais si on n'a pas vos valeurs, on peut pas être en amitié avec vous.
Disons que s'il y a des valeurs qui pour moi sont primordiales, et effectivement, c'est pas qu'on pourra pas être en amitié, on va pouvoir être potes. Moi, le mot ami, il est fort. Voilà.
D'accord.
Et il y a vraiment 3 personnes. Dans mon entourage, je dirais 4 même, que je considère comme des amis. Après, j'ai...
L'amitié pour vous, c'est on peut... Donc,
pour
d'accord.
Moi, l'amitié, c'est la famille.
C'est on peut tous dire.
Des membres de ma famille.
D'accord, c'est des membres de...
Pas tous, on a tous un...
Non, tous, secret, mais d'accord.
Sûr.
Oui.
Oui, voilà. Moi, mon ami, je ne lui dis pas tout, par exemple. Je ne raconte pas toutes mes histoires. Il y a des histoires...
Non, mais c'est une confiance, c'est comme vous
courant,
dites.
D'accord. Voilà. Oui, moi, pour moi, un ami, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais des enfants, c'est quelqu'un à qui je peux laisser mon enfant et partir une semaine et être en confiance. Et pour moi, c'est ça, un ami. Alors,
et vous avez plus senti la confiance, là, c'est ça?
Pas du tout. Plus du tout.
Plus du tout, c'est ça. D'accord, ok. C'est ce que j'essaye de comprendre.
Oui, C'est un ami pour moi, c'est quelqu'un à qui je peux laisser les clés de mon appartement aujourd'hui, puisque j'ai pas d'enfant.
Et là, parce qu'il a parlé de lui comme ça, vous pourriez plus avoir confiance en lui.
Parce que ça a été un cumul de choses, oui, qui font que là, sincèrement, j'ai plus confiance.
Mais si vous lui laissiez, ouais, alors c'est étrange. Oui, il y a Valérie qui dit je suis bipolaire lorsque je suis en hypomanie, je suis comme votre ami, j'ai l'impression de tout savoir mieux que les autres. Et puis il y a Jocelyn qui ajoute écraser les autres, c'est une façon de voir selon comment ils vont réagir, de se prouver qu'on a raison et qu'on va réussir. Il y a sans doute une façon, enfin dans ce que vous décrivez de ce qu'il a fait, qui témoigne d'une grande fragilité à l'instant. C'est ce qu'on comprend dans ce que vous décrivez, de sa part à lui. Mais vous, vous le prenez comme quelque chose qu'il fait contre lui, contre vous, comme s'il avait rompu un lien avec vous, parce qu'il n'est plus à l'endroit où vous pensez qu'il doit se trouver dans votre relation. Et moi, je trouve que c'est drôlement intéressant ce que vous vivez pour vous, parce que là, ça vous amène à reconsidérer qu'est-ce que vous faites de l'amitié, du lien, si tout d'un coup, ben, ça ne correspond plus, alors le lien est rompu. Ben, et ça arrive plein de fois dans une vie, en oui, famille, en amitié, fait, que l'autre nous déboussole, voire nous décourage, nous agresse, nous bouleverse. Enfin, au cours d'une vie, dans des relations très fortes, c'est pas des longs fleuves tranquilles, les relations très fortes. C'est pas un lieu où on est tout le temps d'accord et où tout se passe bien. Vous voyez, vous remettez en cause en disant ben, « ça peut pas être un ami, j'ai plus confiance ». Parce que ce que j'ai vu de lui sans ces trois jours-là, m'invite à me dire, je lui retire ma confiance.
Oui. Oui, parce que ça a dépassé les limites.
Parce que pour vous, c'était dangereux.
Oui, mais ça l'est toujours. Sincèrement, ouais, moi, je le trouve dangereux aujourd'hui.
Mais à quel point de vue il est dangereux pour vous ?
On sent
que vous sentez du danger. C'est pour ça que je vous parle de ça.
C'est pas vis-à-vis que vis-à-vis de moi, j'ai envie de dire vis-à-vis du monde. Moi, j'ai ressenti de la colère par rapport à cette relation, mais la colère globale que j'ai ressentie, elle n'était pas que vis-à-vis de moi, elle était vis-à-vis de moi, de lui, mais également de son impact. Je trouve que c'est une personne qui, là, à ce moment-là, dans la normale, était devenu dangereux. Par exemple, je vais vous donner d'autres exemples, parce que c'est vrai que je ne dis pas ça pour appuyer le fait que, parce que moi, mon ressenti reste mon ressenti au final, à la fin de la journée.
Mais qu'est-ce que vous souhaitez Alors, qu'est-ce qui compte pour vous ce soir quand vous en parlez? Qu'est-ce que vous aimeriez résoudre?
C'est votre intention? Que ma colère, petit à petit, commence à s'envoler.
Oui, mais votre colère, vous savez ce qu'elle dit, votre colère. Vous savez à quoi ça sert, la colère? La colère, ça nous dit qu'on est impuissant à changer quelque chose ou quelqu'un, ou une situation. Donc, on est en colère. On n'a plus de puissance. Donc, la colère, elle nous dit qu'on a une frustration, on est dans une impasse. Ce n'est pas du tout comme on voudrait que ce soit. Mais on peut être en colère contre soi parce qu'on a perdu ou cassé quelque chose. On peut être en colère contre soi parce qu'on a raté. On peut être en colère contre l'autre parce qu'il nous a frustrés ou il est différent de ce qu'on imaginait qu'il soit. Vous êtes en colère contre lui. Donc, il vous a mis une limite, il vous a frustré, il vous a montré quelque chose que vous ne supportez pas. Pour vous, ça ne fait pas partie de votre présentation, ça casse quelque chose dans la relation et vous êtes furieuse parce que la colère, c'est « je ne peux pas changer ça parce qu'il me rend impuissante ». Donc, il m'a mis dans une impasse et je lui en veux. Mais cette colère, qui est très très égotique, la colère c'est vraiment quelque chose de l'ego, elle dit aussi de vous, parce qu'à chaque fois une colère est une invitation à une autre type d'action. Quand on est en colère, c'est pour nous dire « ah bon, regarde, tu es furieux contre ça ou contre cette personne, mais à quoi ça te renvoie toi ?» Ça nous renvoie toujours à nos limites, une colère. Ça nous renvoie toujours là où on s'est limité, dans le cœur, on s'est limité dans... Là, en l'occurrence, quand il s'agit de relations, quand on est en colère contre quelqu'un, ça nous a limité dans l'amour. Et donc là, vous dites, c'est quelqu'un de très important pour moi, et la colère vient de dire, regarde la limite que tu t'es mise, regarde la limite que tu mets dans la relation. C'est ça que vous dit la colère. Alors, vous l'entendez, et d'ailleurs, si elle s'en va pas, c'est que vous ne l'entendez pas, donc elle reste là. Elle peut après, d'ailleurs, se multiplier en, bah justement en peur, en chagrin, parce qu'après, elle peut prendre plein de formes. Mais en tout cas, là, elle ne passe pas parce qu'elle n'est pas écoutée dans ce qu'elle a à vous dire sur vous et pas sur lui. Et pas sur lui.
Oui.
Et c'est pour ça que j'essaye de vous entraîner vers ça, sur vous. Pour enlever des œillères ou un masque. Nos émotions, ce sont des super bonnes amies. Et la colère en est une formidable. Parce que quand on est en colère, c'est qu'on retrouve quelque chose de l'ordre de notre enfance, de quelque chose qui nous résiste. Et on est malheureux. Et c'est pas possible. Donc, ça, chez vous, là, en l'occurrence, dans cette relation d'amitié, ça parle de fusion, ça parle de la vie et la mort, de l'amitié, de tu es ça pour moi, je suis ça pour toi. Comment peux-tu me faire ça à moi? Tu es différent de ce que j'avais imaginé, c'est pas possible, je me sens trahi, vous vous sentez trahi. Mais si vous vous sentez trahi, c'est que y a une absence de liberté de part et d'autre, la vôtre mais la sienne aussi bien sûr. Alors, quand on aime quelqu'un finalement, est-ce qu'on l'aime pas par-delà j'ai envie de dire par-delà bien et mal pour paraphraser Nietzsche, mais par-delà ce qu'il montre, c'est dans ce qu'il est et en sachant que bah oui, hein, comme tout à chacun, on n'est pas toujours quelqu'un d'extrêmement formidable.
Et donc, oui, ah ben totalement, bien
ouais.
sûr.
Donc cette bien colère, vraiment, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller l'écouter pour savoir qu'est-ce qui, en vous, est mis en échec par son comportement et sur lequel vous butez. Parce que là, il y a une cloison. Il y a une cloison à bouger. Et sans doute, ça doit ouvrir plein de peurs parce que vous dites... Ben voilà, ce ne serait pas mon ami si je rencontrais aujourd'hui, je fais une sélection, c'est quelque chose de très important, j'y ai mis beaucoup de valeur. Donc, il y a un territoire qui est très, très délimité pour vous dans l'amitié et il a franchi une ligne rouge de ce territoire. Et là, vous dites, ben, puisque c'est comme ça, il ne peut plus être dans mon territoire. Et moi, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prête à regarder les limites de votre territoire et éventuellement à en bouger un petit peu les frontières? Parce qu'il n'y a pas de véritable danger. Il y a un danger pour vous, pour votre présentation, pour votre ego. Au pire, il est dangereux pour lui-même, mais en quoi il pourrait être dangereux pour vous? Mais je voulais... Vous n'avez pas à me répondre, hein, bien sûr, Anna. Moi, je vous ouvre des questions, des réflexions. J'attends pas de réponse, vous voyez, de votre part. J'essaye de modifier un petit peu votre représentation de la situation pour vous donner de la liberté et que votre colère soit plus contre vous, mais soit pour vous, soit une amie, soit une mise en action. Parce que la colère, ce qui nous fait du bien, c'est de retrouver notre puissance. Et si c'est l'autre qui nous la limite, on lui en veut à mort. Mais si on se dit, mais la puissance, elle est en moi et c'est moi qui me la limite, ça change tout. C'est pour ça, allez regarder qu'est-ce qui vous limite. Parce que c'est vous qui vous limitez par son intermédiaire. Et donc là, il vous rend bien service, par ailleurs. Psychiquement, j'entends. Psychiquement, pas sur le moment, bien sûr. D'accord? Donc, je vous laisse voilà, réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. D'accord, Anna?
D'accord.
Merci à vous. Merci, bonne nuit. Au revoir.
Merci.
Europe 1, 22h30, 1h. La Libre Antenne. Sophie Peters.
C'est la Libre Antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une Libre Antenne dans laquelle on vous accompagne dans toutes vos dimensions. On vous écoute aussi, on vous apporte des réponses. Florian et Thomas sont là pour recevoir vos appels au 39-21. C'est Fifi qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires, ce que vous entendez à l'antenne par SMS, en composant le 7-39-21 en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail à l'adresse libreantenne.fr ou sur la page Facebook Sophie Peters. 39-21, j'attends vos appels.
22h30, 1h. La Libre Antenne avec Sophie Peters sur Europe 1.
Bonsoir Géraldine.
Bonsoir Sophie.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Je vous appelle parce que je souhaiterais parler de ma vie sentimentale
oui,
avec vous.
Avec plaisir.
Alors, j'ai rencontré une personne sur un site de rencontre il y a un an et demi à peu près, avec qui j'ai eu une histoire d'à peu près un mois et demi plutôt intense.
Mmh.
Et en fait, cette personne m'a annoncé assez brutalement qu'il partait, qu'il avait une mutation en région et que donc notre relation ne pouvait pas se poursuivre puisqu'il partait en province et une province assez éloignée.
Mmh.
Ce que j'ai accepté, mais pris avec... c'était brutal,
oui,
vous savez, la
oui.
façon dont il me l'a annoncé.
Et puis, une relation à distance, ce n'était pas envisageable, je vois. Il y en a plein aujourd'hui. C'est pas parce
oui,
qu'il est
voilà,
muté.
Bah,
oui, voilà.
Alors, justement, donc, il m'a annoncé ça assez brutalement, sans me laisser, en fait, la parole. Voilà.
Ouais.
Donc, bah, j'ai accusé le coup. Et moi, je lui ai fait un mail quelques jours après, en disant qu'il ne connaissait pas mes attentes, qu'il ne savait pas comment j'envisageais les choses. Voilà. Donc, on s'est reparlé et on a envisagé une reprise.
Mm-hmm.
Quelques jours après. Et en fait, lui, il était déjà en train de faire des allers-retours en province et à Paris. Et ensuite, il est venu me revoir quelques jours après en me disant que finalement, il avait, en allant là-bas pour un déplacement sur sa région, qu'il avait revu une personne avec qui il avait eu une histoire à 20 ans et que donc, il préférait vraiment rester là.
D'accord. Bon.
Donc j'ai, écoutez, c'est tout. Je me suis dit, c'est pas le moment, c'est pas le. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Je me rappelle lui avoir dit que bon, voilà, qu'il était un petit peu, c'était un petit peu léger. Et puis c'est tout. Cette histoire, il n'y a plus de suite. Moi, c'est quelqu'un que j'ai jamais vraiment oublié parce que c'est quelqu'un qui m'avait marqué à l'époque. Et en fait, nous sommes restés en contact. Nous étions échangés nos mails. Et moi, ça m'arrivait, je crois que 6 mois après, j'ai dû faire un mail pour demander comment il allait. Et les mails étaient assez vagues, si vous voulez. Voilà. Et puis, il y a 15 jours, 3 semaines, alors lui, il m'en avait fait un pour la nouvelle année. Moi, j'en faisais un de temps en temps, mais toujours très vague.
D'accord.
Pas très vague, c'est-à-dire on ne parlait pas de choses personnelles en fait.
Mmh,
voilà,
d'accord.
Il m'expliquait comment son travail se passait. Et il y a 15 jours, 3 semaines, moi je lui ai fait un mail pour dire que ma fille avait eu un diplôme parce que c'est dans le même métier que lui.
Mmh,
et en fait là, il a vraiment repris un contact par mail. C'est-à-dire qu'à cette réponse de mail, il a eu dans ce mail, il me disait qu'il était très content d'avoir de mes nouvelles, que je ne devais pas hésiter avec les messages, qu'il serait très content de me parler, que... Comment je pourrais vous dire ? Que... Pardon.
Ouais.
Il disait voilà, qu'il était vraiment ravi de ce contact et qu'on pouvait peut-être échanger nos téléphones, ce qu'il a fait. Il m'a donc appelé en me disant « Écoute, je vais venir sur Paris et si tu veux, on peut se voir.
Mm-hmm. »
Donc, ce que j'ai accepté. Et en fait, la veille de mettre au point notre rendez-vous, il m'a appelé à peu près 3 quarts d'heure en me racontant pas mal... moi, je ne disais rien sur ma vie, si vous voulez. Et lui, en racontant pas mal ce qui s'était passé, en fait, pendant ces 1 an et demi. Et il me disait donc qu'avec cette personne, je vous dis ses propos, qu'elle l'avait vite saoulé, qu'après, il avait eu pas mal d'histoires avec des femmes dans sa région. Et que, c'était un petit peu léger, si vous voulez. Voilà. Je me suis dit, je vais aller au déjeuner le lendemain et on verra bien. Et en fait, le lendemain matin, par texto, il a annulé ce déjeuner en me disant qu'il avait une urgence professionnelle, qu'il devait rentrer, qu'il espérait que j'allais l'excuser et que je devais prendre soin de moi et qu'il m'embrassait. Voilà.
Mmh. Et vous y croyez pas ? Vous pensez que
je suis perdue.
Et vous pensez que c'est faux l'urgence professionnelle ? Qu'est-ce qui vous perd ? C'est que vous avez imaginé qu'il y avait un rapprochement possible dans les échanges précédents et que vous alliez à ce déjeuner en, en ayant une forme d'espoir, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que je prenais ça comme un espoir.
Comme un signe,
oui.
Comme un signe.
Comme un signe, parce que oui. Je me suis dit, voilà, parce que j'ai eu l'impression, si vous voulez, qu'un an et demi auparavant, qu'il avait mis fin. Alors, cette fille, c'était certainement vrai, mais que c'était un peu une excuse, enfin bon. Qu'en fait, il était vraiment perdu, si vous voulez. Voilà. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, il m'a dit, c'est vraiment une histoire qui aurait pu fonctionner, mais là, vraiment, mon pari, je ne peux plus, et la distance est trop longue, bon, voilà. Donc là, je me suis dit, s'il fait la démarche un an et demi après et qu'il est libre, puisque c'est ce que j'avais compris, c'est forcément qu'il a quelque chose derrière la tête. Voilà. Mais, dans un autre sens, ses propos au téléphone étaient un petit peu déplacés, je trouve, si vous voulez.
Ah, oui, c'est-à-dire?
Bah, de me raconter, bon, elle m'a vite saoulée. Ensuite, j'ai écumé toutes les femmes divorcées de la région. Et puis finalement...
Ah oui, c'est très dégradant. Oui, oui.
Bah oui. Oui. Il m'a déçue, si vous voulez. Voilà. Et j'ai eu cette intuition le soir, en fait, qu'il annulerait pour le lendemain.
Ah tiens, ah tiens.
Oui.
Vous saviez.
Oui.
Comme quoi on sait, hein, souvent. Ouais, c'est, puisque une intuition, c'est qu'on sait. Ouais, vous saviez qu'il allait annuler. Et c'est venu de quoi, si vous interrogez? Qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous saviez qu'il annulerait? Parce que vous avez sûrement l'information.
Bah, parce que nos échanges pendant ces 15 jours, c'était soit il était très emballé, alors sans me dire qu'il avait envie de reprendre et tout ça, mais très enthousiaste, ou alors le lendemain, plus de messages pendant 2 jours, si vous voulez, ou 3 jours.
Ah oui,
alors,
d'accord. Oui.
Voilà, il avait le droit, si vous voulez.
C'est sûr, on est d'accord, Géraldine. Non, oui. Mais vous sentiez quelque chose d'un petit peu instable, comme ça. Pas très fiable, quoi.
Voilà,
beaucoup
voilà,
d'enthousiasme par moment, auquel il croit, hein, sans doute très sincèrement, mais on va dire pas très consistant avec lui-même.
Peut-être, oui, c'est ça.
Peut-être
c'est...
d'ailleurs très encombré de lui, c'est-à-dire très, très auto-centré, très, ce qui lui va, ce qui ne lui va pas. Peut-être aussi dans une recherche de quelque chose d'émotionnel dans l'immédiat. Et donc, à un moment donné, il le sent, donc il est charmant. Donc, il répond de façon charmante. Puis, le lendemain ou 2 jours après, il a déjà changé. Il est dans un autre stade.
Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Et ce que je suis aussi en train de me rendre compte, c'est que c'était finalement un petit peu déjà la même chose, peut-être il y a un an et demi, et je ne m'en suis pas rendu compte.
Ah oui. Ouais. Et vous retrouvez, voilà. vous rendez compte que ça devait être ça.
Ben, je me pose la question, du coup. Je me dis, finalement, il était déjà très inconstant. Parce que pourquoi être sur un site de rencontre et rechercher quelqu'un sur Paris s'il savait qu'il était en mutation?
Yeah.
Enfin, en possibilité peut-être de mutation. Vous voyez, je...
Ouais.
Voilà. Et là, ce qui me perturbe beaucoup, c'est qu'il m'a fait ce message le matin en disant qu'il avait cette urgence et que... Mais bon, la fin du message, prends soin de toi, vous savez, comme s'il n'y allait pas y avoir de suite.
Oui,
et
comme une
rupture. Sur ça, moi, j'ai...
Oui.
Voilà, sur ça, moi, j'ai répondu, zut, dommage, bon courage, bise.
Ouais,
voilà,
pour très bien, super.
Pas froid,
oui,
si
oui.
Vous voulez, voilà, mais pas non plus, j'en rajoutais pas trop. Et sur ça, il m'a répondu, sniff, oui, c'est les aléas du métier. Et là, j'ai plus répondu parce que je me suis dit, bon, c'est bien maintenant, voilà.
Très
et
bien.
Depuis, vous voyez, ça fait plus d'une semaine et j'ai eu aucun message.
Oui. Ouais, alors que s'il y avait du lien, ce serait bon, bah, quand est-ce qu'on se revoit, quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que je reviens, enfin voilà, bien sûr.
Oui, alors, et surtout qu'il m'a dit, voilà, que dans ses nouvelles activités professionnelles, il serait 3 à 10 jours par mois sur Paris.
Oui. Oui, d'où ça a nourri votre espoir, bien sûr.
D'où ça a nourri mon espoir,
sûr,
voilà. Et alors, ce qui me perturbe beaucoup, c'est sa réaction, mais du coup, ça me fait beaucoup réfléchir sur moi.
Oui, bravo. Bien sûr.
Voilà. Parce
c'est
qu'en
ça,
fait,
ça nous sert les autres aussi, oui.
Exactement,
ouais.
Tout à fait. Parce que finalement, bon, lui, bien sûr, j'aimerais savoir pourquoi il agit comme ça, mais ça, il n'y a que lui qui le sait.
Absolument, absolument.
Voilà, mais du coup, c'est plutôt moi pourquoi suis pas très contente d'y avoir cru. Et puis j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça se passe, si vous voulez. J'ai l'impression que ça se répète quand même. J'ai rencontré il y a quelques mois quelqu'un sur un site aussi, avec qui j'ai passé une très bonne soirée, enfin 2-3 heures. Cette personne était enthousiaste et m'a dit que qu'il recontacterait le lendemain, qu'il était vraiment ravi. Et finalement, le lendemain, il m'a fait un message en disant qu'il avait bien réfléchi à ce que je... Parce que c'était quelqu'un qui était en cours de rupture, si vous voulez. Donc, c'est vrai que je lui avais dit pendant la soirée que c'était très important pour moi que c'était très important pour tout le monde, mais pour moi, je pense, de vraiment finir une histoire pour en démarrer une autre, enfin, voilà. Et du coup, le lendemain, il m'a dit que je l'avais fait réfléchir et qu'il n'était donc pas prêt, effectivement. Mais si vous voulez, j'ai l'impression, en fait, que c'est moi qui amène ce genre de réflexion, en fait, sur eux ou de réaction, je ne sais pas comment vous dire.
Alors, parce que vous avez dit, j'ai l'impression souvent de répéter cette situation, et moi, je vous propose un autre verbe, pas répéter, mais vous retrouver dans cette situation. Parce que là, vous pensez que c'est votre comportement qui induit le leur. Et c'est rare...
Je me pose la question.
Bah oui, mais c'est rare que nos comportements... surtout quand on se connaît peu, vous voyez, même au début, induisent un comportement répétitif de personne. Par contre, là où vous avez raison qu'il y a une forme de répétition, c'est dans le fait de vous retrouver, vous, dans ces situations. Est-ce que vous voyez la nuance ? C'est pas que vous répétez quelque chose, c'est un peu comme des lieux, vous voyez, même heure, même endroit, même circonstance. Donc il y a quelque chose... sans doute dans votre imaginaire, vos valeurs, votre façon de vous représenter, la relation amoureuse, la rencontre, l'autre, le couple, qui fait que vous retrouvez, vous répétez pas parce que c'est pas de votre faute, enfin, vous voyez, c'est pas vous qui faites, c'est que vous vous retrouvez dans ces mêmes types d'énergie, dans ces mêmes types de profils, dans ces mêmes types de rencontres, et donc vous obtenez les mêmes réponses.
Oui, c'est un peu ça.
Voilà,
oui.
mais de là à vous dire, zut, mais si par exemple on va prendre ces personnes-là ou ces hommes-là et que vous imaginez en vous disant, mais si je me comporte différemment, alors l'autre serait différent. Alors, il y a une partie un peu vraie dans le sens où en fonction de nos comportements, l'autre peut être différent, mais ce n'est pas tant dans le comportement, parce que peut-être que ces hommes-là, vous ne les auriez même pas rencontrés sur le site de rencontre. Vous voyez ? Peut-être que vous ne les auriez même pas croisé leur route si, à l'intérieur de vous, autre chose était à la manœuvre.
D'accord.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je
vous en prie.
J'essaie de comprendre. Et oui, je vois. Oui, c'est-à-dire que si je... Oui, je comprends.
Parce que là, vous dites que ce qui se répète, ce que vous retrouvez... Ce sont manifestement des hommes où vous imaginez que les choses vont bien se passer ou s'enclenchent bien, et au final vous n'êtes pas rappelé ça s'enclenche pas. Vous sortez d'un rendez-vous en vous disant non, mais en fait tout s'annonce assez bien.
Et ils le disent. On sait bien qu'ils peuvent dire et ne pas le penser. Mais j'ai pas l'impression, si vous voulez, il se passe quelque chose ensuite, en fait. Voilà.
Et alors, allons-y plus loin. Vous imaginez que c'est quoi ce quelque chose qui se passe ensuite, qui viendrait de vous ? Qu'est-ce que vous imaginez ?
Alors, ce que je voulais rajouter justement sur la personne d'un an et demi, lui, il m'a rajouté dans la longue conversation, de 3 quarts d'heure là au téléphone, il m'a dit, il me parlait donc beaucoup de lui, puis à un moment dans la conversation, il m'a dit, mais tu sais, il y a une chose que je t'ai pas dit à l'époque, c'est que je crois que ton exigence m'a fait très très peur. Voilà, et alors sur ça, je lui ai dit oui, je sais que c'est compliqué, c'est une chose sur laquelle je travaille, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on m'a déjà reproché.
Et qu'est-ce que vous...
En général, je suis très exigeante. Et
c'est
les
quoi
hommes,
attendez, c'est quoi l'exigence? Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est quoi d'après eux, parce que pas d'après vous? Ou quel tort vous pensez que vous avez? Vous voyez, qu'est-ce que c'est?
Des critères, si vous voulez, de galanterie, de goût commun, de...
Attendez. Si vous croyez que c'est des critères ou c'est ce que ou c'est que vous savez vraiment ce que vous voulez?
Là, je sais vraiment ce que je veux.
Eh ben voilà. Voilà. Merci Géraldine, parce que c'est exactement ce que j'entends quand je vous entends, moi. Ce n'est pas des critères. Oui. Je ne vous entends pas être une femme
non,
qui met des critères. J'entends bien que ce n'est pas le mot qui
coup,
vous convient.
Quand vous me posez la question, du coup, je réalise.
Ouais. Oui. Ce n'est pas des critères. C'est que vous savez extrêmement bien ce que vous voulez. Et vous savez extrêmement bien ce que vous voulez. Et en face, vous avez des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Voilà, ça devient drôlement intéressant. Parce qu'en sachant très bien ce que vous voulez, je pense que vous avez une peur terrible de ne jamais trouver ce que vous voulez.
Oui, c'est tout à fait ça.
Et qu'inconsciemment, vous vous retrouvez face à des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui ont beau jeu, là voilà la situation que vous retrouvez. Et eux, parce que tout ça est très inconscient, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent, bah quand même, hein, Géraldine, t'es un peu exigeante. Et bingo, et vous, vous dites, bah voilà, c'est de ma faute.
Oui. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça.
Absolument pas de votre faute, Géraldine. Être exigeante, comme vous dites, c'est-à-dire savoir ce qu'on veut, c'est formidable. Voilà, changez rien là-dessus. Par contre, allez regarder d'un autre œil le fait qu'il n'y a aucune raison valable pour que ce que vous souhaitez du plus profond de votre cœur et de votre âme, allez regarder qu'il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas l'avoir. Parce que sinon, vous provoquez à chaque fois des situations où non seulement vous ne pouvez pas l'avoir, mais en plus on vous dit que c'est de votre faute parce que vous êtes trop exigeante.
Oui, non mais je réalise, oui.
Vous voyez, dire à une femme, dans un début de relation, enfin, dire cet homme, il a beau jeu de dire « Oui, ça fait peur quand même, t'es très exigeante. Ben oui, vous savez ce que vous voulez, il ne sait pas ce qu'il veut. » Alors ben oui, il a eu la trouille, parce qu'il s'est dit « Oulala, on va faire comment ?» Parce que lui, il a l'air très très perdu. C'est eux qui ne rappellent pas, c'est eux qui vous baladent. Vous n'avez pas du tout envie, vous avez envie de construire.
Oui, c'est mais moi, bien sûr, je me dis que c'est parce que je ne dois pas en valoir le coup, en fait.
Ah ben voilà, et la boucle est bouclée. Inconsciemment, vous avez bouclé la boucle. Inconsciemment, vous avez donné raison à une croyance extrêmement profonde que vous avez sur vous. Ah mais on est terrible avec soi.
Je ne suis pas étonnée. Oui.
On est terrible avec soi. Hein. Si on se dit que vous savez, alors c'est un petit côté très anglo-saxon sur les croyances, mais on le sait en fait aujourd'hui sur les travaux, sur le cerveau, sur les neurosciences, on a un cerveau redoutable. Et c'est vrai que si on sent que on n'aura pas de succès, qu'on est quelqu'un qui aimerait, on rêve d'avoir du succès, mais enfin on n'est pas quelqu'un qui est fait pour en avoir. Voilà, on le cherchera, puis on y sera tout proche. Puis au moment d'y être, là, de l'atteindre, bim, on tombera de l'échelle.
Oui, presque volontairement pour donner raison. En fait.
Oui, pour valider le fait qu'une part de cette part de vous qui sait que vous ne méritez pas. Et donc vous rencontrez des hommes qui vous renvoient à ça, qui vous donnent raison. Des situations, enfin des hommes dans des situations. Parce que dire à quelqu'un qu'il est trop exigeant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sauf si, effectivement, des critères. Mais souvent, quand un homme dit à une femme, et c'est souvent plus dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'une femme est trop exigeante, c'est souvent qu'elle sait très, très bien ce qu'elle veut et qu'en face, lui, il a un peu la trouille de ne pas assurer, quoi.
Oui, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti.
Bah, oui.
Et après, je me disais, ils disent peut-être aussi pour qui elle se prend.
Et pourquoi? Ça, c'est intéressant. Pour qui elle se prend? C'est votre mère qui vous disait ça, Géraldine? Qui vous a dit ça quand vous étiez petite? Votre mère, votre grand-mère, les femmes dans votre famille, votre éducation? Pour qui elle se prend celle-là,
non,
vous savez?
J'ai pas été très valorisée.
Oui, très encouragée. Quand on est petite, on est dans une cour de récréation où on a mis une jolie robe ou j'en sais rien, où on a fait un truc envers sa maman et tout, et on dit, mais pour qui elle se prend celle-là? Parce que tout d'un coup, on a cherché à se mettre en valeur. Là, je vous parle d'une petite fille de 8, 10, 12 ans. Hein. Qu'est-ce qu'elle se dit? Oui, ça c'est vrai. Hein. Je ne devrais pas me prendre pour quelqu'un.
Oui. Mais d'accord. Mmh. Mais ça vient résonner forcément. Hein.
C'est le temps de vous faire vos représentations pour comprendre à quoi on joue quand on joue avec soi-même. Parce que quand vous dites que vous, quand on dit je répète une situation, c'est, vous la répétez pas, vous n'y êtes évidemment pour rien, enfin pour rien, comment dire, vous vous retrouvez, voilà, dans la situation. C'est pas quelque chose
oui,
de vous.
Non, mais quoi, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Ouais, moi, je le disais, donc du coup, je répète. Mais en fait, oui, c'est pas des relations assez longues pour pouvoir.
Bien sûr aussi. Oui. Bien sûr.
Alors, c'est vrai que ça me gêne un petit peu de dire ça parce que j'avais pas envie, en fait, de penser ça. Mais c'est vrai que ça m'arrivait de me dire, mais en fait, ils sont pas à la hauteur. Vous voyez ?
C'est énorme! C'est énorme ce que
ça
vous êtes en train de
dans
dire.
Dans ma tête de me dire, mais en
ils
fait,
sont
ils ne sont pas à la hauteur.
Et ben alors,
mais
c'est
tout de suite après, oui, mais tout de suite après, je me disais, bah non, je n'ai pas le droit de penser ça, je me prends pour qui.
J'entends. Et ben voilà. Donc, vous avez en vous, Géraldine, les deux parties, on en a plein, hein, mais deux parties de vous qui rejouent un vieux, vieux scénario de la petite fille, c'est-à-dire celle qui dit, je veux le meilleur pour moi, et j'en ai les moyens, et un adulte qui a dû lui dire à un moment donné, mais attends, tu rêves ou quoi, tu te prends pour qui ? Père, mère, professeur, enfin, ou tous à la fois. Et donc, au moment où vous allez prendre votre envol, bim, on vous dit, ah ben non, tu te prends pour qui ? Or, il y a une part de vous qui sait très très bien, qui sait que, effectivement, c'est pas des hommes pour vous. C'est pas une question, oui, vous dites à la hauteur, c'est-à-dire c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, c'est pas ce que vous souhaitez.
Mais j'ai bien compris,
Géraldine. Voilà. C'est que profondément, c'est pas ce que vous espérez et ce que vous envisagez pour vous. Mais vous savez ce que dit le proverbe, hein, faute de grive, on mange des merles. Quelquefois, on se dit, non, mais moi, j'ai pas le droit aux grives, alors je vais me faire un petit merle. Voilà. Ah, mais le merle, il passe pas du tout, je le digère pas, parce que moi, ce que je sais, c'est que ce sont les grives.
Ben oui, c'est-à-dire que c'est ce que je veux. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, oui, mais le problème, c'est qu'à force d'être exigeante comme ça, ben, je suis toute seule. Donc, c'est peut-être mieux de descendre ces exigences. Mais en fait, ça ne me convient pas non plus. Donc,
c'est
de toute façon,
mais ce n'est pas parce que vous êtes exigeante que vous vous retrouvez seule. Ce n'est pas parce que vous savez ce que vous voulez que vous vous retrouvez seule. C'est parce que vous savez ce que vous voulez et que vous ne faites pas 100%, voire 200%, 1000% confiance à ce que vous voulez. Et qu'une part de vous se dit que c'est impossible, que jamais vous n'aurez ce que vous voulez. Géraldine, qui dit à Géraldine, non mais vraiment, pour qui tu te prends ? Et alors, moi vraiment, ce que je vous propose, Géraldine, ça se fait d'ailleurs dans des jeux de rôle en thérapie, mais sinon, vous pouvez le faire aussi avec vous-même, hein, comme un jeu. Allez vous mettre dans un endroit calme, tranquille, voilà, que vous aimez bien, ou avec un cahier, voilà. Et faites entrer en scène ces deux Géraldines-là. Et faites-les discuter, mais presque en mode automatique. Enfin, essayez pas ni d'intellectualiser ni de juger. Alors, soit l'écriture vous est facile, soit en fixant un point dans la nature que vous aimez bien, mais comme vous voyez un regard fixe qui permet de fixer, voilà, un instant. Et puis vous les faites discuter, et vous allez regarder qui dit quoi et d'où ça vient. Là, vous allez trouver le langage. Démarrer la conversation entre les deux. Où elles ne sont pas d'accord, il y en a une qui dit mais... et essayez de muscler un peu celle qui dit mais si, moi j'ai le droit au meilleur, et l'autre lui dit pour qui tu te prends, et donc celle qui pense qu'elle a le droit au meilleur va dire mais qu'est-ce qui te fait dire ça et sur quoi tu te bases pour me dire une chose pareille, et ça vient d'où, et qu'est-ce que je fais qui te dérange, donc l'autre va lui répondre, voilà, et puis vous allez continuer, vous allez voir où ça vous mène.
D'accord.
Et où, surtout, ça vous ramène, c'est-à-dire de quoi vous vous souvenez, qui ont été sans doute des scènes d'enfance, et où vous, l'adulte d'aujourd'hui, vous pouvez dire, bon, maintenant, stop, ça suffit.
Mais si vous voulez, je le sais, hein, je le
bien
sais,
sûr,
parce que je suis en thérapie depuis plusieurs années.
D'accord,
donc,
oui. Vous pouvez faire ça avec votre thérapeute, peut-être. Ouais.
D'accord, je commence à le savoir, mais malgré tout, ça ne change pas, si vous voulez. Donc, là, je vais vous demander qu'est-ce que je peux faire pour arriver.
Mais oui, Géraldine, vous avez raison, parce que ce qui est terrible en thérapie, c'est qu'il y a toute une période où on commence à prendre conscience, on découvre, on comprend. Et là, c'est génial. Et on se dit, bah, comme j'ai compris, tout va changer. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'on a compris mentalement, intellectuellement, et on n'a pas alchimisé au sens de pratiquer l'alchimie, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas intégré. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas intégré dans la vie, dans l'expérience. Donc en fait, l'expérience de vie continue à reproduire l'ancien schéma quand notre compréhension, elle, a avancé. Et c'est ce qui vous arrive là aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très douloureux. C'est, je comprends plein de choses, mais ma vie, mon comportement ne change pas, au secours.
Non, voilà, c'est voilà. Et j'allais vous demander, qu'est-ce que je peux faire pour
changer,
que ça change,
puisque changer j'en ai l'expérience. Conscience. Ne plus faire les mêmes expériences. Fuir tout ce qui ressemble aux expériences du passé pour créer une nouvelle expérience qui va permettre, du coup, cette alchimie. Mais avant de créer la nouvelle expérience, à l'intérieur de vous, c'est pour ça que je propose de parler, de se faire parler les Géraldines entre elles, c'est d'arriver quand même à la source, parce que c'en est une chose de comprendre, mais il y a notre inconscient, bien sûr, ce mystère-là, et d'aller s'adresser à Géraldine dans ce dialogue pour dire, voilà, est-ce que tu m'autorises à faire valoir qui je suis vraiment et laisse-moi me prendre pour qui j'ai envie d'être. Voilà, et je me prends pour qui je suis. Et je ne fais de l'ombre à personne. Et elle est rassurée, la Géraldine, qui dit, non mais pour qui elle se prend celle-là? Elle se prend pour personne, elle se prend pour Géraldine. C'est très bien ainsi.
Oui. Bah oui, parce que si vous voulez, j'ai presque l'impression qu'on me dit,
je fais de l'ombre.
Mais enfin, tu peux pas redescendre tes... Enfin voilà, arrête un peu de...
Mais non, vous n'avez rien à arrêter. Vous avez à être beaucoup plus dans votre axe, encore plus vous. Ce n'est pas de l'arrogance. J'entends bien en vous parlant, il y a une différence. Parce que le problème, c'est que le langage commun, pour qui tu te prends, etc., on imagine quelqu'un qui humilie l'autre ou qui est arrogant, etc.
Non, je
sais bien, mais je vous dis ça aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Je dis ça parce que souvent, ces phrases-là sont terribles parce qu'elles ne rendent pas compte de la réalité. De qui on est. Ce sont des phrases...
Ah non, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que du coup, j'y vais très...
Mais j'entends bien
que c'est pas ça. Et pas du tout.
Je suis presque sûre que vous y allez en mode je fais pas de bruit et je prends pas trop de place et je laisse là. Mais j'entends la façon dont vous parlez de lui, je vois bien. Ouais. Donc c'est pas juste, parce que du coup, vous obtenez la réponse que vous redoutez.
Ben oui, et puis
d'où
là,
la situation que vous retrouvez.
Oui, et puis là où je suis un petit peu vexée, c'est que je me dis, finalement, il a compris que j'avais un espoir et il me retourne le dos et en fait, je suis vraiment une cruche, si vous voulez.
Oui, bon, ça, lâcher l'affaire, c'est de l'ego. Allez, un jour, vous allez les remercier, tous ces hommes-là, parce que ça vous aura permis de comprendre que finalement, cette situation, vous l'avez provoquée en vous remettant dedans à chaque fois. Tant qu'on n'a pas élaboré psychiquement, notre inconscient est aussi un bon ami, parce qu'il nous remet tout le temps dans ces situations qu'on retrouve de peur, d'angoisse.
Pour finir par comprendre, en fait.
Oui, pour finir par les... Alors, les comprendre, vous les comprenez, mais pour les traverser,
non,
pour les intégrer.
Pour les traverser,
ouais. D'accord. Pour l'intégrer vraiment. Oui, intégrer une peur, intégrer une tristesse, intégrer un blocage, intégrer le fait, voilà, être d'accord avec ça. Être pour vous, Géraldine, être d'accord avec vous, c'est être d'accord avec la femme qui a de la valeur et qui trouve qu'elle en a, et d'être profondément d'accord avec ça. Le jour où vous allez réconcilier les deux Géraldines qui se disputent aujourd'hui, ça va changer votre vie.
D'accord.
La réconciliation intérieure, vraiment, elle me semble essentielle.
D'accord. Et vous pensez que l'hypnose peut aider à faire ce pas ?
Pourquoi pas ? Je dis pourquoi pas, parce qu'après, c'est vraiment selon chacun. Donc,
Non, parce que si vous voulez, la thérapie, c'est une chose. Bon, je continue à le faire, mais je me dis que peut-être en essayant...
Oui, mais là, vous savez, déjà en élaborant, je ne sais pas si votre thérapeute fait ce qu'on appelle le travail des parties, pour faire discuter les deux Géraldines. Ça serait extra qu'elles vous aident. Bon, extra.
Oui. Alors, on le fait, mais plus, si vous voulez, sur la partie petite fille. Oui, enfin, c'est ça, donc. Petite fille et adulte, mais plus par rapport à ma vie, par rapport à mes parents, si vous voulez.
Ben oui, mais il en reste, là. Tant qu'on n'a pas réconcilié le père et la mère qu'on a à l'intérieur... C'est-à-dire donc que l'enfant, l'adulte qu'on est, réconcilie pour l'enfant qu'on a été les deux parents intérieurs. Tant qu'on n'a pas passé par là, ben on reste avec des conflits internes et des oppositions. Donc c'est pour ça quand je vous parle de réconciliation. Ouais. Bon, mais vous réécouterez sinon notre échange et puis voilà.
Oui, parce que forcément il y a des choses que je n'ai pas, voilà. Ouais. Mais c'est très intéressant parce que du coup c'est vrai que je, en fait c'est un petit peu ce que j'avais compris, mais je me l'accordais pas.
Voilà, comme c'est joli, je me l'accordais pas, c'est beau ce mot, accorder, c'est comme les pianos qu'on
accorde. Donc du coup vous m'avez un petit peu réconciliée.
Ouais, Ouais, c'est joli. Ouais, je me l'ai
avec moi-même.
Gardez cette phrase, hein, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Je me l'accordais pas. C'est vraiment joli. Ouais. Merci Géraldine. Merci.
Et
accordez-vous.
Merci.
Et accordez-vous avec vous pour être une jolie musique. Au revoir. Au revoir Géraldine.
Merci Sophie. Au revoir. Au revoir.
Bonsoir Cynthia.
Bonsoir.
Bienvenue. Sophie. Vous voulez nous parler de votre fils, de votre petit garçon, parce qu'il est jeune, ouais.
Oui, de mon enfant de 13 ans.
13 ans, ouais.
Qui a tenté de mettre fin à ses jours il y a 3 semaines.
Ouais.
J'ai découvert fortuitement. En fait, il a essayé d'avaler le produit pour déboucher les essais. Et donc, le matin, il a fait ça dans la nuit.
Mm-hmm.
Et le matin, au petit déjeuner, je le trouvais un peu pâle, bizarre. Il me disait qu'il était nauséeux, mais bon. Donc, il a pris son petit déjeuner, puis il est vite parti. Et puis, bon. Que c'est l'instinct de maman, je ne sais pas. Je suis descendue à sa chambre et là, je vois une tache sur un tapis foncé qui était décoloré. Et je lui demande ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé avec son tapis parce que je ne comprenais pas. Et puis, je lui demande de m'expliquer et là, j'ai pris de nausées, de vomissements à nouveau. Et là, donc, j'ai compris tout de suite. Et je lui ai pas dit qu'est-ce qui t'a pris, ni rien de tout ça. J'ai essayé de savoir tout de suite quelle était la quantité qu'il avait absorbée, est-ce qu'il y avait longtemps. Parce qu'il m'a dit tout de suite qu'il avait avalé le produit.
Tout de suite, oui. Il vous l'a dit.
Voilà, ouais. Oui. Donc, de là, j'ai tout de suite. Alors, pour information, je suis infirmière.
Oui.
Voilà. Donc, j'ai tout de suite fait le 15 et j'ai expliqué la situation. J'ai pris le produit. On m'a mis en contact avec le centre antipoison. Par chance, le produit n'était pas suffisamment corrosif pour provoquer des dégâts internes. Donc on m'a repassé ensuite le médecin urgentiste qui bien sûr m'a dit vous l'emmenez tout de suite aux urgences, on va faire un bilan complet et bon il faut avoir conscience quand même qu'il va certainement y avoir une hospitalisation. On est à 30 km des urgences. Donc j'ai expliqué à mon fils qu'on partait aux urgences, qu'il allait être pris en charge dans un premier temps par un médecin urgentiste qui allait évaluer les dégâts, s'il y avait des dégâts qui étaient causés au niveau interne, et qu'ensuite il allait voir
un pédopsychiatre
et discuter avec lui pour comprendre. Donc, tout ça dans un contexte très très compliqué depuis quelques années. J'ai un enfant qui est dit très haut potentiel, qui a été testé une première fois à l'âge de 8 ans, à qui, en fait, on a fait tout le processus des tests qui se déroule en deux temps. Et pour s'entendre dire finalement par le psychiatre du CNP qu'elle ne pouvait pas nous donner le résultat des tests puisque la loi venait de passer, c'est l'accord des deux parents. Et le papa n'avait pas donné de réponse, alors ni favorable ni pas favorable, il n'avait juste pas répondu. Donc là, mon fils a été vraiment très, très frustré de la réponse de cette dame. Et il lui avait d'ailleurs répondu que faire autant d'études pour pas être fichu d'avoir une réponse de son père, c'est un peu dommage. Bon.
Du papa, c'est ça qui...
Oui, voilà.
Ouais. Ouais.
En fait, il lui a dit voilà, que être psychiatre et pas être capable d'avoir une réponse.
Mais son père, c'est le père qui n'a pas voulu répondre. Oui.
Voilà.
Mais
oui.
Il n'y peut rien, le psy, que le père ne veuille pas donner. Donc le père n'a plus de contact avec votre fils, c'est ça?
Non. En fait, il y a eu quand même 4 mois qui se sont écoulés entre le moment où on a fait les tests et le moment de la restitution des tests.
Oui.
Et que sur cette période de 4 mois, en fait, ils ont fait un courrier. Mais ils n'ont pas cherché à le joindre. Mais ils ne m'ont pas appelé, moi non plus, pour me dire, voilà, on n'a pas de réponse du papa, est-ce que vous pouvez essayer
bon. Ah, ils ont cherché à joindre le père, c'est ça, et pas vous.
Voilà.
D'accord.
Et du coup, et moi, ils m'ont jamais appelé pour me dire, on n'arrive pas à joindre le père.
D'accord.
Bon. Et donc, mon fils a été très frustré à ce moment-là. Il était vraiment...
Et vous pensez, vous, que c'est un des éléments déclencheurs? C'est ce que vous comprenez, vous?
Non, je pense que... Non. Ça fait partie de l'historique, en
d'accord,
gros.
D'accord.
Donc, on a attendu 2 ans, puisqu'il faut attendre 2 ans pour repasser les tests. Il a donc repassé ses tests à l'âge de 10 ans. Entre-temps, mon fils a... par la voix de l'assistante sociale de son collège, a pris une avocate et a saisi le juge aux affaires familiales parce qu'il ne voulait plus aller chez son père. Mmh. Donc, pendant ce temps-là, je pense que c'est la psychologue qui le suit, hein, qui lui a conseillé de faire cette démarche. Donc, il a passé ses tests, il a eu la restitution, donc c'est le WISC 4 et puis un autre dont j'ai oublié un peu le nom. Enfin bon, c'est des tests qui visent à évaluer le quotient intellectuel. Mmh. Parallèlement, donc à 10 ans, il a jumelé, on vit en campagne, donc il a jumelé son CM1 et son CM2. Et il est parti au collège avec les résultats donc, de ces tests qui montrent qu'il y a évidemment un très haut potentiel. Mais je ne le sentais pas bien. Mm-hmm. Mais il verbalisait beaucoup d'ennuis à l'école, beaucoup d'incompréhension. Pas d'atomes crochus avec les enfants de son âge. Bon. Ça restait...
Assez isolé.
Oui, très isolé quand même. Mmh.
Dans le risque suicidaire, oui, d'accord.
Voilà. Mmh. Et donc la psychologue qui le suivait me disait qu'il y avait quand même des pulsions... des tendances suicidaires. En tout cas,
elle vous l'avait dit. Oui.
En tout cas, un état anxieux dépressif.
Voilà. Et ça, c'était quand?
Ça, c'était il y a 2 ans.
Et donc, il a été pris en charge en pédopsie, dès lors?
Alors là, non. Elle m'a dit qu'elle allait pouvoir l'aider. En tout cas, à aucun moment, elle ne m'a dit qu'il fallait quand même qu'il ait un suivi en pédopsie.
Bah oui, il aurait fallu immédiatement, oui.
Voilà,
ah oui, des pensées suicidaires et un tableau anxio-dépressif si petit, c'est un suivi immédiat.
Voilà. Donc.
Mais il a continué à la voir.
C'est une psychologue
de l'école.
Oui.
Une psychologue de l'école.
Non, c'est une psychologue privée.
Oui.
Et.
Mais qui est spécialisée des enfants?
Qui est spécialisée pour les enfants.
Donc elle a pensé qu'elle pourrait en fait l'accompagner et le traiter.
je suppose.
Mais elle a continué à le voir jusqu'à sa tentative de suicide ou elle le voyait, il la voyait plus?
Elle a continué, elle a arrêté de le voir début janvier parce qu'elle était en arrêt maladie, puis en congé maternité.
Ah oui, donc il s'est senti abandonné là. Ah oui. Ça a lieu quand là sa tentative de suicide?
Il y a 3 semaines.
D'accord, donc depuis début janvier, il n'avait plus sa psy qu'il suivait.
Non, il n'avait plus sa psy qu'il suivait.
Donc un enfant qui a ce tableau-là, mm-hmm. Voilà un moment fort où il s'est senti abandonné, complètement lâché là.
Mm-hmm. Donc là, il a passé une semaine en observation en pédiatrie.
Là, depuis son suicide.
Oui.
Ouais.
Le pédopsie m'avait dit qu'il fallait qu'on mette de la distance. Donc, oui, ok, on va mettre de la distance. Hein. Je vais venir moins. Donc, le lendemain, je suis venue lui emmener des vêtements parce qu'évidemment, je ne me balade pas avec le trousseau dans la voiture. Là, le pédopsie me dit, mais je suis étonnée de vous voir là. Oui, mais je viens d'arriver. Enfin, je ne suis pas restée. J'ai juste emmené des vêtements. Et en fait, je venais juste emmener des vêtements. Et à partir de là, il m'a dit clairement que je souhaitais que je n'ai pas de contact avec mon enfant. Mais de là, il m'annonce que... la période d'observation montre en effet que Raphaël dort peu et que de toute façon le sommeil n'est pas de qualité. On lui explique effectivement que dès qu'il n'a pas suffisamment de nourriture intellectuelle, un enfant qui ne dort pas et qui ça mouline en permanence dans sa tête. Donc il décide de le mettre sous anxiolytique. Bon. Et puis, à la fin de la semaine d'hospitalisation, l'anxiolytique n'a pas eu l'air d'avoir un effet vraiment probant. Bon, on est dans une petite ville, j'ai travaillé dans le service de pédiatrie où il est, et mes anciennes collègues de nuit me disent qu'effectivement, le sommeil est très léger, il dort, mais à chaque passage, il est bien réveillé. De là, il est transféré en pédopsychiatrie dans un service qui est un accueil de semaine, une prise en charge de week-end. Ouais. La première semaine, on ne me dit pas, on me dit à l'entrée, l'assistante sociale du service, une petite de service me dit, voilà, vous pouvez appeler votre fils le mercredi soir, de 18h à 20h, on lui présente le service. Alors là, il y a une chambre d'isolement, là, il y a une chambre d'apaisement. Et elle me dit, mais ça va, il n'a pas de crise, il cache tout, votre enfant, avec mon fils à côté. Je lui dis, non, ça m'est arrivé jusqu'à maintenant, mais et là, je vois Raphaël qui me regarde bizarrement. Bon, on est resté là. Donc, j'ai ramené mon fils dans le service de pédiatrie. Le lendemain, il a été pris en charge par le service de pédopsie. Et le surlendemain, quand j'ai appelé le service, jour dit à l'heure dite, on m'a dit non, madame, c'est une demande thérapeutique, vous ne pouvez pas parler à votre enfant.
Oui, c'est souvent le cas hein, dans le service de psychiatrie.
J'ai dit, bon, ok. Ça aurait été sympa de me prévenir, quand même. Donc, je leur demande comment il va, au moins. Il prend ses marques, il va pas mal, bon. Et au niveau du sommeil, c'est comment? On vient de le passer sous nos inans, donc il y a une neuroleptique. Antipsychotique. Je suis un peu étonnée quand même. Je trouve que c'est un petit peu rapide après 3 jours, mais bon. Je demande s'il dors ? Non, toujours pas, pas plus. Ah, bon. Alors, en fait, ce qui m'inquiète le plus, donc là, la semaine qui s'est écoulée, ben, le médecin qui l'a pris en charge était en vacances.
Et alors, pardonnez-moi de vous interrompre, Cynthia, parce que comme il ne nous reste que 3 minutes d'émission, j'aimerais savoir de quoi vous avez besoin là ce soir.
De besoin, alors, de savoir s'il y a des parents qui ont été confrontés à ce type de problème, des enfants qui sont des enfants au potentiel, s'il existe des structures dédiées, s'il est au bon endroit.
Alors, déjà, oui, bien sûr qu'il y a aujourd'hui plein d'associations et de structures sur les enfants à haut potentiel. Et ça, vous le tapez sur Internet, vous allez trouver pléthore de réponses, et notamment sur tout ce qui concerne les zèbres, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Qui dit haut potentiel, dit hypersensible. Donc, si vous faites une recherche Internet, ça, c'est pas le souci, vous allez trouver. Mais moi, il me semble que c'est pas du tout là le sujet. Parce que vous faites le lien entre sa tentative de suicide et le fait qu'il soit au potentiel. Tu vois, si j'ai envie de vous dire
c'est un tout.
C'est un tout. Et que ce que je comprends dans ce que vous racontez, c'est que le déclencheur, c'est sa psy qui, pour des raisons particulières, mais en tout cas, ça s'est arrêté avec sa psy en janvier. Il décroche quelques mois plus tard, dans un tableau global où vous êtes très seul et où il a été déjà repéré comme étant un enfant à risque sur le plan du suicide, donc avec un tableau anxio-dépressif. Donc il a effectivement aujourd'hui, soyez-en certaine et rassurée, besoin d'un suivi de pédopsychiatrie renforcé. Parce qu'il est à risque et que les équipes, et vous le savez, je pense en étant infirmière, mais en psychiatrie, ils ne veulent prendre aucun risque. Et pourquoi ? Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas parce qu'ils estiment que vous êtes une mauvaise mère que vous ne devez pas le voir. C'est qu'ils ont besoin d'avoir l'enfant et de l'éloigner des plus proches pour pouvoir avoir un accès, parce que souvent, l'enfant ne parle pas ou ne dit pas parce que le parent n'est pas loin et ne veut pas effectivement faire de la peine ou troubler. Et on sait aussi que dans le suicide des enfants, des jeunes, parce que tu sais, très jeune, avant, en pré-ado, c'est une colère contre eux-mêmes. C'est une colère qu'ils ont contre un membre de la famille, alors peut-être le père, peut-être vous, qui retourne contre eux-mêmes et qui tente en fait de un peu de manipuler ou de souhaiter punir d'autres personnes, c'est-à-dire du type « et regrettons quand je serai mort ». Donc ils veulent mourir pour dire au monde entier « vous ne m'avez pas compris, je vais vous faire regretter ». Voilà, et vous pourrez regretter. Donc, il cherche à atteindre, il donne un message. Donc, il est excessivement malheureux, il est en très, très grande souffrance. Et le plus aidant pour vous, c'est d'être attentif, bien sûr, à ce que vous disent les psychiatres. Et puis, bien sûr, d'être là avec votre cœur de mère et vous, surtout, de vous faire aider, du coup. Parce que ça veut dire que vous avez besoin d'être soutenu, d'accord ? D'accord, très bien Cynthia. Mais là, alors bien entendu, si on a des informations, on vous les donnera, mais avant même d'aller, vous pouvez consulter des associations de haut potentiel, voir s'il y a eu des cas de suicide d'enfants, mais moi il me semble que, comme vous dites, c'est un tableau global et c'est pas l'élément le plus marquant. L'élément le plus marquant, c'est le syndrome anxio-dépressif qu'il avait depuis longtemps, qui n'est pas forcément lié au fait qu'il soit au potentiel. Voilà, et vous en saurez plus avec le pédopsie. En tout cas, je suis navrée parce qu'on doit se quitter, mais je vous souhaite un grand et fort courage, Cynthia, parce que c'est terrible ce que vous traversez. Et puis, bien sûr, qu'on vous contactera si on a du neuf. Mais faites vos recherches parce que vous allez tout trouver, d'accord ? Je vous embrasse, Cynthia, et je vous quitte. Je vous remercie tous. On n'a que 4 minutes, donc je vous laisse en compagnie de Pierre Belmar, ses dossiers extraordinaires. Merci bien sûr à Anna, Géraldine et Cynthia, il est 1h. Et demain, c'est promis, à 22h30. Bonne nuit à tous.